Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, 10h-11h, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous de tous les passionnés des animaux, qu'ils soient domestiques ou faune sauvage. Merci à vous d'être présents dans cette émission. Alors aujourd'hui, on va parler des chats. Et oui, certains de nos minous adorent faire leurs besoins à côté de la litière. Ça tourne au cauchemar pour leurs propriétaires. N'hésitez pas d'ailleurs à composer le 0826 300 300 si vous êtes confronté à ce problème. Car grâce à notre éducatrice habituée de cette émission, nous allons vous trouver des solutions. Côté vie sauvage, on vous parlera d'un petit animal qui perturbe les travaux de la déviation de la route nationale 88. C'est dans la Haute-Loire que ça se passe. Et ce petit animal, eh bien, il s'agit du campagnol amphibie. Enfin, à la fin de cette émission, vers 10h45, je vous présenterai une émission que j'adore. Ça s'appelle Vétéricaire. Ça a été monté par deux jeunes vétérinaires pour trouver des solutions financières afin de soigner les animaux des personnes qui n'ont pas les moyens de le faire en cas d'urgence. Votre animal se fait renverser par une voiture, vous n'avez pas les moyens de le soigner. On vous propose une euthanasie, mais c'est un crève-cœur absolu. Et bien là, vous aurez une solution. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes. On va d'abord parler de nos chats.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente...
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et ce matin, dans Vos animaux et vous, il va être question de nos matous et tout particulièrement de ceux qui ont décidé d'être malpropres. Pourquoi font-ils systématiquement leurs besoins à côté de la litière alors que vous faites votre maximum pour leur offrir une litière confortable? Eh bien écoutez, on va essayer de répondre à ces questions et surtout de vous trouver des solutions en compagnie de notre éducatrice préférée, Sandy Descorcia. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Sandy, merci beaucoup d'être avec nous parce que là, vous allez vraiment, je pense, trouver des solutions à un certain nombre de nos auditeurs, car c'est un cauchemar quand son chat fait ses besoins à côté de la litière.
Ah, effectivement, c'est très difficile à vivre pour l'humain parce qu'on ne comprend pas pourquoi le chat fait ça. Et je vous assure que c'est pas drôle de se réveiller tous les jours, trouver un pipi sur le canapé, sur le lit. Ouais, c'est dur.
Pipi ou caca. D'ailleurs, excusez-nous pour ces détails qui sont pas tout à fait à l'ordre du jour le matin quand on est au petit déjeuner. Mais c'est quand même bien notre sujet aujourd'hui. Et grâce à vous, Sandy, on va essayer de comprendre d'abord pourquoi les chats font ça et puis surtout d'essayer de mettre en place des solutions. Ce problème, il est fréquent chez les chats ?
Oui, c'est une des problématiques les plus demandées pour nous en tant que consultants en comportement du chat, parce que souvent ça peut être dû à un environnement inadapté et donc le chat s'exprime en faisant ses besoins ailleurs. Donc oui, c'est une des problématiques les plus fréquentes.
Alors c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que, si je comprends bien vos propos, que le chat ne fait pas ça pour embêter son maître, comme on peut l'imaginer parfois.
Absolument. Hyper important parce que souvent les gens nous contactent en disant que le chat par exemple est jaloux parce qu'un nouveau copain est arrivé à la maison ou qu'il s'est vengé en faisant pipi sur le canapé parce que on s'est absenté pendant 2 heures. Et non, il n'y a pas cet esprit de vengeance, de méchanceté. C'est vraiment un message que le chat essaye de passer, un petit peu comme un « ça va pas, help, aide-moi », c'est tout.
D'accord. Et alors ce message, qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi font-ils ça de manière générale?
Alors la première des raisons qui concerne le chat, c'est que parfois ça peut être un problème médical qui est caché là derrière. Ça, c'est extrêmement important d'en parler à son vétérinaire en premier pour s'assurer qu'il n'y ait pas une petite infection, quelque chose qui dérange le chat, une douleur
effectivement qui pourrait expliquer des besoins un peu aléatoires et pas dans la caisse.
Bien sûr, même un chat âgé qui a un peu de difficulté à monter dans sa litière, des fois il peut commencer à faire à côté, bien ça sûr. Peut arriver. Donc ça, c'est la première raison. Et ensuite, sinon, ça va être un signe soit d'anxiété ou d'environnement inadapté, donc de chat qui n'est pas bien dans son environnement. Donc dans ce cas-là, ça peut être soit la litière ne lui correspond pas et ne correspond pas à ses besoins, soit il y a une nouveauté, donc par exemple un déménagement, une nouvelle personne, une nouvelle routine, et le chat est un petit peu perturbé et un petit peu stressé par ça.
D'accord. Alors justement, puisque vous nous parlez des litières, c'est un sujet très important. Quand on se rend dans les rayons des grands magasins spécialisés, on trouve vraiment une profusion de litières différentes. Quels sont les différents substrats possibles pour nos chats et qu'est-ce que vous conseillez avec l'habitude que vous avez justement de ces problèmes de malpropreté?
Alors effectivement, il y a plein de substrats différents. Il ne faut pas hésiter à en tester plusieurs pour trouver celui qui correspond au chat. Mais c'est vrai que dans la majorité, nous, de nos résolutions de problèmes, on a remarqué que c'est les litières qui sont agglomérantes et douces pour les pattes. Alors c'est pas extrêmement scientifique hein, de dire voilà, on s'attend à ce que peut-être ce soit un grain particulier avec je sais pas une odeur particulière, mais pas du tout. C'est le fait que le grain soit souple, fin et doux pour les pattes qui plaît au chat et qui soit propre, donc une qualité de substrat qui soit facile à nettoyer, par exemple.
D'accord, donc il faut vraiment tester en fait plusieurs litières pour se rendre compte de celle qui convient le mieux à son chat.
Souvent, oui, on a des chats qui sont même habitués petits à un type de litière et qui gardent cette habitude. Mais sinon, si votre chat boude un petit peu sa litière et son substrat, pas hésiter à changer, à en tester et à y mettre un petit peu le prix pour quelque chose de qualité quand même, parce que rien que pour l'humain aussi, une mauvaise litière, c'est pas agréable en termes d'odeur. Donc ouais. Une bonne litière, ça sera généralement mieux pour tout le monde.
Bien sûr. Alors, on va partir au standard puisque ce sujet intéresse nos auditeurs ce matin sur Sud Radio et nous avons le plaisir d'avoir Claudine avec nous. Bonjour Claudine.
Oui, bonjour.
Claudine, vous nous appelez d'où ?
Alors moi, je vous appelle de Niort.
D'accord. Et vous êtes confrontée à ce problème ?
Bah, c'est-à-dire que moi, je sais d'où ça vient, en fait.
Hein. Ah, racontez-nous ça.
C'est-à-dire que, bon, Mimi, elle vient d'avoir 5 ans, là.
Oui.
Et elle a été tout un moment où elle était toute seule dans le quartier, donc la vie était belle, elle faisait ce qu'elle voulait, elle se baladait, nous on est en pleine campagne, hein, donc voilà. Et puis les voisines ont ramené des chats, bon encore avec les chats, bien que la plus vieille, elle soit pas gentille du tout, moi elle m'a même agressée, donc c'est pour dire. Mais c'est pas encore bon, elle arrive à peu près à s'en dépêtrer. Mais le problème c'est qu'il y a un chien et elle a extrêmement peur. Elle est très très stressée.
Oui.
Et donc bah, elle a son territoire qui s'est réduit comme peau de chagrin, donc surtout à la maison. Donc le peu qu'elle sort, elle va sortir pas très longtemps, ou alors si elle se fait coincer dehors, elle se réfugie dans une grange, mais après bon bah elle est pas très très bien non plus.
D'accord.
Donc bon, et quand elle peut pas sortir comme elle veut, eh ben si elle est trop stressée, elle me fait pipi quelquefois sur le plan de travail de la cuisine.
Ah oui, ça c'est pas très agréable effectivement.
Donc,
mais je suis pas sûre d'avoir bien compris, Claudine, le chien il n'est pas chez vous.
Non, il n'est pas chez nous, mais il se balade.
D'accord.
Et elle aboie fort, hein, c'est une chienne. Et
donc ça stresse Mimi.
Elle en a une trouille, mais alors c'est incroyable, quoi.
D'accord.
Donc elle supporte pas du tout. Et comme elle a du siamois, elle est hyper stressée.
Hyper sensible.
C'est-à-dire que hyper sensible. Et l'année dernière. Elle en avait le dos qui roulait, elle courait dans tous les sens, enfin ça devenait insupportable. Et sous le conseil de ma pharmacie, je lui donne maintenant des granules d'homéopathie et ça marche très très bien.
Pour la calmer, pour la déstresser.
Ouais. Ça marche vraiment très très bien. On a vu le résultat en l'espace de 2 jours.
D'accord. Ah ben écoutez, c'est formidable. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais les médecines douces hein, ont souvent un impact extrêmement positif sur nos animaux. Sandy, comment vous réagissez face au récit de Claudine ?
Alors effectivement, s'il y a un chien qui diminue son domaine vital, ça peut effectivement la rendre un petit peu plus anxieuse et changer ses habitudes. Alors l'idéal, c'est de lui proposer peut-être une litière à l'intérieur qui soit vraiment au top du top pour qu'elle se sente bien aussi à l'intérieur sans qu'elle regrette de ne plus pouvoir aller où elle veut à l'extérieur peut-être.
Qu'est-ce que vous avez comme litière, Claudine ?
J'ai une litière, attendez, excusez-moi, parce qu'elle a eu des bébés là.
Oui.
Et donc, bon, bah, ça la stresse un peu parce que là, ils ont commencé à être grands.
D'accord.
Donc, ma fille en garde un, donc je l'ai à la maison. Et puis, il y en a deux autres, du coup.
D'accord, 3 chatons.
Voilà. Et il y en a une qui est sur l'armoire. Et elle me détruit mon armoire.
Mais c'est un cas d'école chez vous, Claudine.
Rania. Rania,
Eh bien, écoutez, en direct sur Sud Radio, nous avons le chat Claudine qui est en train de lui détruire son armoire pendant que nous parlons de son autre chat qui fait pipi partout.
ils ont tous des caractères hyper différents.
Mais ils sont tous adorables, on est bien d'accord.
Ah mais je l'adore. Mais non, mais vous savez bien, on adore ce qui nous pose
évidemment.
Le plus de soucis. Voilà. Non, mais je les aime.
Mais c'est vrai que les pipis partout, c'est un truc dont on peut, dont on aimerait vraiment se passer. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Claudine, Sandy?
Alors toujours s'assurer aussi au niveau vétérinaire, parce que comme j'entends qu'elle est pas stérilisée, hein, faut quand même voilà s'assurer de auprès de son vétérinaire qu'il n'y ait pas un lien avec aussi ses éliminations, parce que c'est sur le plan de travail, c'est pas courant hein, le plan de travail comme endroit ouais. d'élimination.
Est-ce que ça le fait que ce soit en hauteur justement, c'est un signal parce qu'elle s'y sent bien, un peu rassurée?
Mais justement, je me posais la question, parce que le plan de travail est souvent en hauteur, effectivement, et je me demandais si c'était vraiment, parce qu'il faut différencier l'élimination complète, donc une élimination flaque, hein, je dirais, c'est glamour, mais c'est comme ça, versus le marquage, où là, on est plus sur des surfaces un petit peu plus verticales, et les chats vont déposer que quelques gouttes, oui. on va dire.
Alors, effectivement, peut-être, c'est plus un marquage,
d'accord.
mais c'est quand même un marquage...
Conséquent.
Conséquent.
D'accord.
Voilà, hein, bon.
Et alors, vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez comme litière, Claudine?
Alors, en litière, je fais un mélange de litière un peu parfumée oui. avec de la litière naturelle bois.
D'accord.
Voilà, pour rappeler quand même un peu aussi au niveau odeur ce qu'il y a dehors. Quand elle peut sortir, mais c'est-à-dire qu'en plus c'est une chatte qui ne sort pas l'hiver, quoi. Dès qu'il commence à faire froid.
Mais est-ce que là, l'hiver, elle fait pour autant à côté de sa litière?
C'est quand même le stress, parce que moi j'ai remarqué quand même que dès que je lui donne de l'homéopathie, elle le fait beaucoup moins.
D'accord, ok.
Voilà.
Alors,
donc il y a quand même une notion de stress et j'ai un rebord de fenêtre à côté de mon bureau,
oui.
Donc je lui ai mis son coussin. Et donc les petits ont interdiction de monter.
D'accord, c'est son coin tranquille.
Voilà, c'est son coin tranquille. Mmh. Donc en général, s'il y en a qui monte, je grogne elle aussi. Donc
d'accord.
ça redescend aussi sec.
Claudine, ce que vous nous expliquez, moi, m'amène plusieurs questions à notre spécialiste des chats, Sandy Descorcia. D'abord, Claudine nous dit qu'elle a une litière parfumée. Est-ce que ça, c'est bien pour nos chats? On comprend l'intérêt pour nous, parce que c'est sûr que l'odeur de pipi, c'est quand même assez affreux. Est-ce que le choix d'une litière parfumée, c'est adéquat?
Alors, on sait pas, ça dépend des chats, mais la plupart du temps, quand il y a des problèmes de litière, c'est vrai qu'on change pour des litières non parfumées et on se rend compte que le chat préfère quand il n'y a pas de parfum, puisque, nous, si on la sent, le chat peut sentir 70 fois mieux que nous, donc peut-être que c'est trop fort et un peu dérangeant pour certains chats. Mmh. C'est possible.
Et en ce qui concerne le matériau?
Alors là, j'entendais effectivement les bois un peu écologiques. Alors pour l'humain, c'est très bien, mais il y a des chats, certains chats qui n'aiment pas cette texture-là, ça arrive. Donc dans ce cas-là, pas hésiter à tester peut-être un substrat plus comme du minéral, hein, agglomérant, très fin, de qualité, qui va vraiment faire des boules agglomérantes de saleté et qui sont très faciles à nettoyer et que le chat peut vraiment gratter, faire un trou et enterrer d'une façon qui lui plaît beaucoup.
Comme il le fait à l'état naturel. Claudine, merci beaucoup pour votre appel.
Mais je vous en prie.
Essayez donc
remercie.
Un nouveau type de litière, ça pourrait peut-être porter ses fruits. Merci
oui,
à vous.
On pourra essayer, on verra bien.
Bon voilà. Week-end, Claudine.
Merci, vous aussi, merci.
Sandy, pour continuer sur le témoignage de Claudine, alors on a parlé effectivement du choix de la litière, donc vous privilégiez vraiment les litières extrêmement agglomérante, de préférence pas parfumée quand on a des problèmes comme ça de propreté. Le bac à litière aussi est très important. Comment doit-on le choisir?
Alors effectivement, on s'est rendu compte via les dernières études qui ont été faites que la taille du bac importait beaucoup pour les chats et qu'il faut qu'ils aient de l'espace. Et dans l'idéal, si vous avez possibilité de choisir un bac où dans la diagonale du bac de litière, votre chat peut tenir de son museau jusqu'à sa queue tendue.
Ah oui, donc un grand bac, il ne faut pas leur mettre un truc tout petit.
Exactement. Donc c'est vrai que quand on a un Maine Coon, du coup, voilà, ça fait une petite piscine.
C'est une piscine,
à chat.
C'est ce que j'allais vous dire.
C'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est l'idéal puisqu'il peut se retourner, aller à un endroit, déposer ses selles à un endroit et puis plus tard dans la journée aller remettre sans forcément qu'on ait eu la possibilité nous de le nettoyer à l'instant T bien évidemment. Mm-hmm. Donc c'est vrai que la taille, ça plaît vraiment au chat et malheureusement on a beaucoup de litières actuellement qui sont jugées trop petites ouais. pour les tailles de nos chats actuels.
Et on choisit un bac ouvert ou un bac fermé ?
Alors si le bac était immense et que c'était une maison de toilette, les dernières études nous rapportent qu'il n'y aurait pas d'importance s'il était fermé ou non. Mais comme nos litières sont vraiment trop petites, dans l'idéal, il vaut mieux enlever le couvercle hein, pour faire un bac ouvert.
D'accord, donc bac ouvert. Donc si je résume vos conseils, Sandy, on prend un bac de très grande taille. Il faut que votre chat tienne en diagonale sur toute sa longueur si vous prenez du bout du museau jusqu'au bout de la queue, en tendant la queue. Donc on imagine bien la taille du bac. On change sa litière si on a des problèmes de malpropreté pour essayer de trouver une litière qui convient mieux à son chat, une litière extrêmement agglomérante. De préférence, on évite les litières parfumées qui peuvent les déranger. Et puis, j'imagine aussi que la propreté de la litière est essentielle. Comment on entretient son bac ?
Absolument, on a des chats qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, si votre chat aime bien que ce soit toujours propre,
en même temps, on les comprend, hein.
Oui, hein, on est d'accord que si nous, on avait voilà, un petit mouchoir à se partager tous les jours pour aller aux toilettes, on serait
on
un petit peu gêné.
Voilà.
Voilà, donc certains chats aiment beaucoup la propreté. Donc, si jamais, pas hésiter à mettre un bac de plus que le nombre de chats pour diluer cette propreté. Et le nettoyage se fait une fois par jour, tout simplement, en enlevant les déjections et les pipis et en les mettant dans un petit sac poubelle à côté. Et on n'est pas obligé d'enlever tout son substrat à chaque fois, bien évidemment, puisqu'un substrat de qualité, vous êtes censé le changer tout toutes les deux semaines à un mois facilement, hein, pas plus que ça.
Et on met épais de substrat, il faut qu'on ait l'impression que ce soit confortable, moelleux, j'imagine.
Oh, quand même, oui, comme nos chats sont des gratteurs, ils aiment bien enterrer leurs besoins, donc n'hésitez pas, mettez 10-15 cm
hein, ah oui,
de quantité
carrément.
De substrat. Ouais, comme ça, c'est un petit bac à sable agréable.
Finalement, c'est peut-être parce que quand on met moins de substrat, c'est parce qu'il y a aussi des questions économiques, ça coûte un peu cher la litière, mais vous, vous privilégiez vraiment cette solution-là, et au final, ça se révèle peut-être pas plus onéreux.
Exactement. En fait, une bonne litière de qualité qui est bien agglomérante, vous enlevez tous les jours juste ce qui est sale et donc ça reste propre vraiment plus longtemps plutôt que de faire le choix de se dire je vais en mettre qu'un tout petit peu et le vider. Hein. J'ai beaucoup de propriétaires de chats qui font comme ça, qui en mettent un petit peu et qui le vident en se disant ça va être tout propre et en fait, ça leur coûte beaucoup plus cher et le chat n'a pas assez de substrat pour gratter. Donc, il vaut mieux une bonne litière de qualité qui va vous permettre d'économiser en temps et en argent et qui plaît au chat. Bien sûr.
On a Noémie qui a appelé le standard de Sud Radio. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Noémie, vous habitez en Loire-Atlantique, c'est bien
oui,
ça ?
Oui, exactement.
Et vous avez un petit souci avec votre minette ?
Oui, avec Lola,
oui.
Tout simplement parce que Lola n'aime qu'une sorte de litière.
D'accord.
Elle ne, si je change, systématiquement, elle n'ira pas dedans, elle va aller voir, mais elle va en ressortir et n'ira pas faire ses besoins dedans.
Et pourquoi vous voulez changer alors s'il y en a au moins une qu'elle aime ?
Parce que je me suis dit, si un jour cette marque s'arrête, j'aimerais bien pouvoir en trouver une autre, une alternative, qu'on va dire. Et non, pour l'instant, je ne trouve pas.
Vous avez anticipé en fait un éventuel changement pour essayer de l'habituer.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Noémie, Sandy ?
Et ben si jamais elle veut effectivement, ça se comprend, hein, trouver un autre substrat qui pourrait plaire à son chat, déjà très important, ayez bien une deuxième litière et faites le test que dans la deuxième litière pour toujours lui laisser le choix de dire ta litière habituelle que t'aimes elle est là, elle n'a pas bougé, mais je te propose un choix alternatif. Ça va éviter effectivement d'avoir ce test qui se révèle à chaque fois par un pipi à côté.
Bien sûr. Oui. Et Noémie, à quoi ressemble la litière qu'elle aime bien Lola ?
Alors, c'est du sable vraiment très fin. C'est
d'accord.
comme un sable de plage,
oui.
Agglomérant. Et du coup, dès qu'elle va dedans, si la litière est toute propre, on le sait parce qu'elle peut passer au moins 10 minutes dedans
d'accord.
à gratter. Juste
ah
par
oui.
plaisir.
Juste par plaisir. En fait, ça confirme vraiment ce que nous expliquait Sandy. Le choix de la litière est important. Il faut que ce soit agglomérant. Il faut qu'il y ait cette douceur, entre guillemets, sous les pattes du chat. Donc, vous avez coché toutes les cases.
Bah oui, ouais, je pense que là on est pas mal.
Et elle a plusieurs litières, Lola ?
Non, elle en a qu'une. dans un petit coin de la maison et c'est vrai que du coup j'ai jamais de pipi extérieur en fait si sa litière est bien propre.
D'accord. Bah écoutez, donc suivez les conseils de Sandy. Si vous voulez tester une deuxième litière, déjà essayez de vous approcher de la texture de la première, parce que visiblement, elle sait exactement ce qu'elle veut, ce qui lui fait du bien. Et puis, mettez un deuxième bac pour éviter de lui remplacer celui qu'elle aime bien. Et peut-être qu'elle aura aussi plaisir à aller gratter dans le deuxième bac.
D'accord, très bien.
Merci à vous, Noémie, d'avoir appelé Sud Radio.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci, passez un excellent week-end. Sandy, on parlait du nettoyage des litières. Certaines personnes, parfois, utilisent de l'eau de Javel parce que on entend souvent dire que l'eau de Javel est une odeur que les chats aiment bien et que ça va les attirer. Est-ce vraiment le cas?
Alors, effectivement, il y a des odeurs un petit peu ammoniaquées qui peuvent attirer certains chats parce que ça peut ressembler apparemment à des odeurs qui ressemblent à l'urine. Mais il faut faire très attention parce qu'encore une fois, notre chat sent 70 fois mieux que nous. Donc, si nous, on sent la javel, il est possible que lui, ça soit trop fort. Ça a même tendance, selon certaines études, à détruire les cellules olfactives. Donc, ne pas abuser. Hein. Moi, je conseille vraiment de faire au simple, nettoyer la litière avec de l'eau et du savon. Rien de voilà, compliqué. Mmh. Et si vraiment on veut attirer un chat, mettez une micro-goutte de litière et épongez-la, enfin essuyez-la avec un sopalin pour
d'eau de
javel,
vous voulez dire. Une micro-goutte de javel. Et enfin, une dernière question très rapidement. Comment on apprend un chaton à aller faire ses besoins dans la litière et pas à côté?
Alors, s'il a eu la chance d'avoir maman, les frères et sœurs avec lui, normalement, elle va s'en occuper et il va suivre hein, par imitation.
Mimétisme.
Voilà.
Mmh.
Et après, si vraiment on a récupéré un petit chaton et qu'on n'a pas le choix, pas hésiter à le poser dans la litière, hein, tout simplement, avec un bon substrat agréable. Généralement, il y a le côté assez instinctif de gratter et ça va aller amener ce côté de faire dans la litière, tout simplement. Il faut que la litière lui plaise.
Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez trouvé, très chers auditeurs de Sud Radio ce matin, des solutions à ces problèmes de malpropreté qui sont malheureusement assez fréquents chez nos chats et qui peuvent vraiment nous gâcher la vie. Et vous pouvez bien sûr retrouver tous les conseils de Sandy Degorcia sur le site et les réseaux sociaux des éduchateurs. Merci Sandy.
Merci.
Passez un excellent week-end à vous aussi. On se retrouve d'ici quelques minutes pour parler d'un petit animal étonnant qui fait face à des pelleteuses en ce moment. Il s'agit du campagnol amphibie.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, 10h-11h, Natacha Harry.
Et vers 10h45, on aura la chance de découvrir ensemble une association extraordinaire fondée par deux jeunes vétérinaires qui a pour objet d'aider les personnes qui ont des difficultés financières lorsqu'ils sont confrontés à des soins d'urgence sur leur animal de compagnie. On se demande d'ailleurs pourquoi ça n'existe pas depuis très longtemps. Voilà, ça ce sera vers 10h45, mais tout de suite notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage.
Et ce matin, nous allons parler d'un petit animal qui s'appelle le campagnol amphibie. Ce petit animal a été trouvé sur un chantier, le chantier de la déviation RN88. Ça se passe en Haute-Loire. Face à lui, des pelleteuses interrompues par sa présence. Pour nous expliquer de qui il s'agit, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rigaud. Bonjour Pierre.
Bonjour Natacha.
Alors comment un petit campagnol peut arrêter des pelleteuses?
Alors pour l'instant, il n'arrête pas grand-chose, faut bien dire, hélas.
C'est l'idée en tout cas, c'est ce que souhaiteraient les associations de protection de l'environnement.
Oui, des naturalistes locaux ont découvert la présence de cette espèce, qui est une espèce classée protégée. Alors il y a plein d'espèces différentes de campagnols, la plupart ne sont pas protégées, sont très communs, mais le campagnol amphibie, qui a la particularité de vivre dans les milieux aquatiques, au bord de l'eau, des rivières, et qui est beaucoup plus rare que la plupart des autres, lui est protégé, et sa découverte, très récemment sur ce projet routier de contournement routier de déviation en Haute-Loire, s'ajoute à la liste d'autres espèces déjà trouvées sur le site et qui sont elles aussi classées protégées. Donc c'est la bataille entre les associations de protection de la nature locale et les promoteurs de ce projet. Mais hélas, c'est que dans les films où vraiment de façon très exceptionnelle que la découverte d'un scarabée ou d'une espèce protégée d'un campagnol empêche un chantier.
Je savais que ça allait vous faire réagir, évidemment. Alors, il faut savoir que cette déviation, hein, qui est censée dévier Saint-Austien et Le Pertuis, est une déviation qui traverse une zone humide. On sait que les zones humides sont vraiment des zones riches en biodiversité. Et donc, c'est aussi pour cela que les associations de protection de la nature se battent.
Oui, toutes sont vraiment vent debout localement pour contre ce projet. Alors ce projet qui a des défenseurs, il faut bien le dire, notamment certains habitants qui seront positivement impactés par le fait que la route s'éloigne de certaines habitations, mais d'autres au contraire seront touchés. Et puis surtout, effectivement, des zones humides et des terres agricoles. C'est pour ça qu'il y a vraiment dans l'opposition à ce projet à la fois des écolos, mais aussi des paysans, toutes sortes d'agriculteurs, parce que alors les opposants au projet disent que malgré quelques avantages qu'on peut retirer, c'est un énorme projet à 200 et quelques millions d'euros, ouais, pour faire seulement quelques kilomètres de route, mais par contre qui va avoir un impact énorme localement sur la biodiversité, mmh, et particulièrement sur les milieux humides, et qui impacte donc notamment des espèces protégées comme le campagnol amphibie, qui devient assez rare dans la région.
Alors justement, puisque cet animal est rare, on ne le connaît pas bien, est-ce que vous pouvez nous parler de lui, nous expliquer comment il vit, voilà, c'est quoi un campagnol amphibie en plus?
Et oui, parce qu'alors il y a au moins 13-14 espèces différentes de campagnols en France qui sont des petits rongeurs qu'on peut différencier par exemple des mulots ou des souris, en ce sens que les campagnols ont un aspect plutôt, comment dire, assez rondouillard, des oreilles qui sont petites contrairement aux souris ou aux rats qui ont des grandes oreilles, une queue globalement moins longue que les rats ou les souris, et ça ressemble à une petite boule de poils qui passe complètement inaperçue. Et parmi tous ces campagnols, eh bien, le campagnol amphibie qui est un peu plus grand que les autres, qui fait à peu près la taille d'un rat, il a un pelage brun chocolat, très assez épais. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il n'a rien de remarquable, justement, sur le plan de la morphologie.
C'est vendeur, dit comme ça,
c'est
Pierre.
Ah, mais attendez la suite. C'est que ce qui est extraordinaire, parce que il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur cette espèce il y a quelques années, les campagnols amphibies, ils ne payent pas de mine, à part qu'ils sont très mignons, franchement, parce qu'une petite boule de poil brun chocolat, c'est toujours mignon quand on aime les petits mammifères. Mais c'est surtout qu'ils vivent, ils ont un mode de vie qui est vraiment extraordinaire, puisqu'ils sont complètement liés à l'élément aquatique. Ils vivent au bord de l'eau, ils nagent parfaitement. Ils plongent notamment pour regagner l'entrée de leur terrier qui est sous l'eau,
ce qui leur
permet d'éviter des prédateurs qui en surface peuvent, par exemple les hermines ou les belettes, vous savez, c'est tout petits carnivores qui sont capables d'aller poursuivre les autres campagnols, mm-hmm, jusque dans leur terrier, ce qui d'ailleurs aide les agriculteurs, mais sauf que les campagnols amphibies, eux, ils sont à l'abri parce qu'il faut plonger pour aller rejoindre l'entrée de leur terrier. Et bien ces campagnols amphibies, malgré leur vie aquatique ou amphibie, ils n'ont pas d'adaptation spéciale visible. Par exemple, ils n'ont pas les pattes palmées comme l'ont les castors ou les loutres. Oui. Et pour autant, ils sont très à l'aise dans l'eau. Et ils sont tellement à l'aise dans l'eau qu'ils sont complètement dépendants de ce milieu-là. Et c'est ça qui les rend très fragiles, en fait. C'est qu'ils ont su s'adapter à une niche écologique très particulière, où il n'y a pas trop d'autres concurrence avec les autres espèces de campagnols, par exemple. Mais ça les rend très, très précaires, très fragiles, parce que dès qu'on détruit la zone humide ou dès qu'on l'impacte un petit peu, ça peut les faire disparaître.
Évidemment. Dites-moi, ces campagnols, en fait, donc on a compris qu'ils sont très mignons, ils sont remarquables sur plein de points en raison de leurs adaptations, même s'ils ont peu de spécificités. Comment vivent-ils? Comment se reproduisent-ils? Quelle est leur vie sociale? Expliquez-nous tout ça, vous qui êtes vraiment un fin connaisseur de tous ces petits animaux qui passent souvent assez inaperçus.
Et oui, on les voit jamais. Franchement, ils sont tellement discrets qu'en général, quand on les repère, c'est plutôt qu'on trouve leur crotte. Ça fait le lien avec ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on
décidément, alors ce n'était pas volontaire aujourd'hui, c'était un sujet récurrent dans cette émission.
Ben, vous savez, quand on s'intéresse sur le terrain aux mammifères sauvages, eh bien souvent on cherche leurs traces, leurs indices. Et pour les campagnols amphibies, c'est surtout leur petite crotte verte qu'on cherche et qui permet de déceler leur présence. C'est comme ça qu'ils ont été trouvés sur ce projet de déviation routière. Les campagnols amphibies, ils sont vraiment liés au milieu aquatique, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller, par exemple, manger vos plantations, ou manger dans votre potager, ou commettre des dégâts dans les parcelles agricoles. Donc ils embêtent vraiment personne, ils font leur vie de façon très discrète. Ils sont territorialisés sur une petite portion de cours d'eau, et ils naviguent comme ça à l'interface entre l'eau et la surface, et la berge. Ils se nourrissent de plantes qu'ils trouvent soit dans l'eau, soit des plantes aquatiques, soit qui poussent vraiment juste au bord de l'eau. Et ce qu'ils adorent, c'est être planqués sous la végétation, sous l'herbe, mm-hmm, pour éviter d'être repérés par les prédateurs. Ils font leur petite vie comme ça de façon complètement discrète, chacun avec son petit territoire. Et la reproduction qui commence à peu près maintenant avec les beaux jours, avec le printemps, eh bien, c'est des petits campagnols qui vont naître dans un terrier. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'entrée est planquée sous l'eau, ce qui fait que tout ça est parfaitement invisible. Et ensuite, ils ont
des grands terriers élaborés comme ceux des castors, par exemple.
Non, c'est très simple. C'est juste un trou d'entrée sous l'eau qui amène à une cavité qui est cachée dans la berge, et ça les rend assez fragiles, notamment par rapport aux éventuelles modifications du niveau d'eau, par exemple. Mm-hmm. Si le niveau monte, bah, évidemment, ça peut les noyer, etc. Donc c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans ce genre d'espèces-là, c'est que ils ont une niche écologique qui est assez spéciale, et ça confère plein d'avantages. Mais ça confère aussi beaucoup d'inconvénients parce que c'est un milieu qui est instable. Ils dépendent beaucoup, en fait, de ce que font les humains au bord de l'eau, même de façon parfaitement involontaire, sans les connaître. Par exemple, si vous avez un bord de rivière qui passe au fond de votre jardin, ou si vous êtes agriculteur et que vous avez un fossé ou un ruisseau qui passe au bout de la parcelle, rien que le fait, par exemple, de tondre l'herbe un petit peu trop ras, même si pour vous c'est pas du tout préjudiciable, et ben en fait ça va mettre en évidence ces campagnols qui n'auront plus ce petit couvert végétal sous lequel se cacher. Et alors, évidemment, les pelleteuses, c'est encore pire parce que là on détruit carrément les portées de campagnols dans leur terrier, et si on les détruit pas, et bien on modifie tellement le milieu que les campagnols ne peuvent plus vivre là, donc ils sont obligés de partir.
Oui, surtout on détruit ces zones humides qui deviennent totalement inhabitables pour tous ces animaux dont c'est l'habitat naturel.
Exactement, parce qu'on parle des campagnols amphibila parce que c'est une espèce protégée, qui est protégée depuis quelques années, parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de menaces sur cette espèce et que les effectifs étaient plutôt en déclin et que l'espèce devenait rare. Mais il y a plein d'autres animaux qui sont complètement liés aux zones humides, et c'est pas, comment dire, une lubie d'écolo de rappeler que la disparition des zones humides, c'est la disparition de plein d'espèces qui sont liées à ces endroits-là. Et puis aussi, c'est la perte de toute une fonction de ces écosystèmes. Là, on s'éloigne un petit peu du sujet précis de ces animaux sauvages, mais en fait, ces animaux vivent dans des zones humides qui ont aussi un rôle écologique extrêmement important pour en retenir, prévenir les inondations, pour au contraire stocker de l'eau qui peut être diffusée lors des sécheresses, etc. Donc en fait, quand on touche à ces animaux-là qui sont classés protégés, eh bien c'est aussi des milieux qui peuvent être utiles aux humains qui sont impactés. C'est pour ça que c'est important de considérer ces animaux spécialisés des zones humides.
Ce sont un peu des ambassadeurs de ces zones qui sont essentielles finalement à la vie de notre nature. Est-ce qu'ils ont un rôle écologique particulier, ces petits campagnols amphibies, Pierre ?
Alors, je mentirais en vous disant que s'il n'y a plus de campagnols amphibies, ça va être... s'il n'y a plus de campagnols amphibies en tant que tel et que le reste ne bouge pas, que pour nous, ça va nous changer notre quotidien. Non, ça fait partie de ces animaux où, bien sûr, qu'ils sont complètement impliqués dans les écosystèmes parce que eux-mêmes sont, par exemple, quand même la proie, même s'ils sont assez discrets et qu'ils arrivent à éviter beaucoup de prédateurs, mais ils sont quand même mangés, par exemple, par des loutres d'Europe ou par d'autres. Donc, effectivement, ça a des implications en cascade sur le plan écologique. Mais bon, vous et moi, si les campagnols amphibies disparaissent demain, ça changera pas notre vie. Mais c'est ça qui est difficile à faire comprendre quand on s'intéresse aux animaux sauvages ou à la nature en général, c'est que, effectivement, si on fait disparaître un élément, par exemple une espèce animale, ça n'a peut-être pas d'implication directe, mais par l'absurde, si on commence à tout éliminer, à la fin, il ne reste plus rien, et à la fin, c'est catastrophique sur le plan écologique. Donc je pense qu'il faut s'intéresser, par exemple, aux campagnols amphibies en tant que tels, même s'ils ne nous apportent rien de façon directe, en considérant qu'ils font quand même partie, ils sont quand même un maillon de toute cette chaîne, chaîne que si on brise les maillons un par un, à la fin c'est catastrophique. Voilà.
À la fin, effectivement, c'est catastrophique. Et c'est bien de parler de ces zones humides, car on sait aujourd'hui à quel point elles sont absolument utiles pour nous, les êtres humains, mais aussi pour l'ensemble de la biodiversité. Pierre Rigaud, merci beaucoup pour toutes ces explications. On peut vous retrouver, bien sûr, sur vos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où vous êtes extrêmement actif avec des plaidoyers réguliers en faveur de la faune sauvage.
Merci Natacha, et si je peux dire juste un tout petit mot, pour les gens qui sont en Haute-Loire, d'essayer de rejoindre les associations locales de protection de la nature qui luttent contre ce projet de déviation routière. Je pense à France Nature Environnement Haute-Loire, à la Ligue pour la protection des oiseaux Haute-Loire, à SOS Loire Vivante, et aller voir la lutte des sucs, parce que les sucs, pour les gens qui ne sont pas dans le coin, c'est les fameux volcans des Haute-Loire qui donnent ce paysage si caractéristique. Donc essayer d'aider les gens qui localement essayent de protéger la nature, et notamment les campagnols amphibies.
Message passé, Pierre. Merci à vous. Très bonne journée, très bon week-end. Tout de suite, notre question veto.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
Et c'est Nathalie qui a une question à me poser. Bonjour Nathalie.
Bonjour Natacha.
Oui, Nathalie, mais... vous êtes une fidèle de cette émission.
Ah, totalement. Tous les samedis, je suis là, branchée. Prête à vous écouter. Oui, moi j'avais une question par rapport à mon chien plutôt comportemental.
Oui.
J'ai un West Highland Terrier, il aura bientôt 6 ans. Et lorsque je lui prépare sa gamelle avec des croquettes, je lui laisse à disposition d'ailleurs toute la journée pour qu'il puisse aller manger à sa guise. Et depuis 2 ou 3 ans, quand il s'approche de la gamelle, il s'adonne à un genre de rituel qui consiste en fait à faire avec son museau comme s'il recouvrait la gamelle. Alors en fait, ça ne m'inquiète pas
avec
vraiment.
Avec un tissu, avec
Ça virtuellement, il fait un geste qui ressemble un petit peu comme s'il recouvrait la gamelle. Alors c'est vrai que en fait, je m'inquiète pas spécialement parce qu'il finit par la manger.
Oui.
Mais en revanche, je me pose la question, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il n'aime pas ce que je lui donne? Mais au final, bon, il s'en contente et il mange. Ou alors, est-ce que ce geste pourrait traduire autre chose?
Alors, j'avoue que vous me posez un petit peu une colle ce matin. L'important, d'abord, c'est qu'il continue à manger normalement. Bon, c'est un chien de petite race. Donc, 6 ans, on va dire qu'il est en pleine force de l'âge. Donc, a priori, tout va bien. J'imagine qu'il va voir régulièrement son vétérinaire, qu'il est suivi, qu'il a peut-être aussi des bilans sanguins réguliers, etc.
Oui, complètement, il est suivi. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à poser la question à un vétérinaire. C'est pour ça que ce matin, je me suis dit, tiens, je vais les appeler pour voir un petit
peu. Vous me l'avez réservé. Bien, je vous en remercie, Nathalie. Je ne vais pas avoir de réponse extrêmement franche et précise à vous donner. Parfois, des animaux peuvent faire des rituels, effectivement, qui vont exprimer, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Sandy Descorcia à propos des chats, qui vont exprimer un mal-être, un message qu'ils souhaitent passer finalement. Là, dans le cadre de votre chien, l'important, c'est qu'il mange. S'il ne mangeait pas, là, je vous dirais, attention, il y a un problème. Ça peut être un problème mécanique hein, au niveau de ses dents, ça peut être un problème digestif ou ça peut être l'expression d'un stress, d'un mal-être. Lui, il mange, il ne semble pas bouder sa gamelle. Est-ce que vous avez essayé de déplacer sa gamelle pour voir s'il reproduit ce comportement?
Non, j'ai jamais tenté. Non, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas testé.
Vous n'avez pas d'autres animaux à la maison?
Non, je n'ai que lui.
Donc il n'a pas de compétition possible avec un autre animal?
Pas du tout, rien ne le perturbe, enfin semble le perturber. Mais moi je me demandais du coup, est-ce que ça ne serait pas quelque chose d'instinctif, comme quoi il voudrait cacher avec de la terre, alors qu'il n'y a pas de terre naturellement, mais qu'il essaye de reproduire un geste qui serait instinctif, je ne sais pas.
Alors les comportements vraiment instinctifs, primitifs de nos chiens, ils ont vraiment disparu avec la sélection des races. Enfin, il peut rester parfois des petits comportements qui s'apparentent à ces comportements primitifs. Aujourd'hui chez les chiens de race qui sont extrêmement bien domestiqués, qui vivent avec nous, c'est vraiment très rarement le cas. En plus, vous me dites qu'il n'a pas toujours fait ça, c'est quelque chose de relativement récent, enfin ça a plusieurs années, mais ça n'a pas toujours été le cas. Écoutez, je ne suis pas en capacité de vous donner une réponse extrêmement construite et précise sur le sujet. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut veiller vraiment à ce qu'il continue à manger, qu'il mange avec bon appétit. J'imagine que quand vous lui proposez de temps en temps des friandises, il les accepte volontiers.
Ah, il n'y a aucun souci.
Bon, voilà. Donc, à partir du moment où tout ça va bien, n'ayez pas d'inquiétude. Mais j'ai bien compris que ce n'était pas tant une inquiétude de votre part, plus qu'une interrogation. Mais là, je ne vais pas avoir de réponse très précise. J'en suis désolée, Nathalie.
Non, c'est pas grave.
Il faut parfois être humble, justement, face au comportement de nos animaux qui peuvent avoir des comportements qu'on ne comprend pas toujours. Et là, je n'ai pas d'explication. Merci en tout cas, Nathalie, d'avoir appelé le Standard de Sud Radio.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous, Nathalie. Allez, on marque une courte pause et on retrouve après 2 jeunes vétérinaires qui ont monté une association formidable.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, c'est votre histoire.
Et dans C'est votre histoire, ce matin, j'ai le plaisir de donner la parole à 2 jeunes vétérinaires, Céline et Guillaume. Bonjour à vous deux, merci d'être présents sur l'antenne de Sud Radio.
Bonjour Natacha, bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio.
Alors Céline, on va commencer avec vous. Vous avez créé avec Guillaume une association qui s'appelle Vétéricare. L'objectif de cette association, et vous allez nous l'expliquer en détail, mais c'est d'aider les propriétaires de chiens ou de chats qui à un moment donné sont confrontés avec une urgence, à une urgence avec leur animal et qui n'ont pas les moyens de la financer. C'est ça qui vous a interpellé?
Oui, tout à fait. En fait, en tant que vétérinaire, nous avons vraiment voulu apporter une solution à la situation qui nous avait paru la plus difficile, la plus compliquée pendant nos années de clientèle. Envisager l'euthanasie d'un animal qui pourrait être soigné, pourrait guérir, pourrait être sauvé même, uniquement parce que les propriétaires n'ont pas les moyens de payer des soins lourds. Et ça, c'est la situation la plus dramatique qui puisse arriver.
Alors, c'est vrai qu'en introduction tout à l'heure, je disais qu'on se demande pourquoi cette bonne idée n'existe pas depuis fort longtemps. Il y a des dispensaires d'associations qui aident les personnes démunies, mais vous allez aider les gens vraiment qui sont dans l'urgence et qui ne rentreraient pas aussi facilement dans le cadre d'un soutien du monde associatif, entre guillemets, plus classique.
Alors, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent pour aider les gens démunis. Et il y a un grand nombre d'associations qui font d'ailleurs un travail formidable pour aider ces gens-là. Et je pense qu'il faut le souligner.
Il y a beaucoup de dispensaires, mais peu par rapport au nombre de personnes qui auraient besoin en fait, d'un coup de pouce.
Oui, et puis nous, on a ressenti un manque sur vraiment cette situation particulière qui est effectivement le cas d'urgence. Dans lequel on n'a pas toujours le temps de constituer un dossier de plusieurs jours. Il faut agir rapidement, il faut pouvoir répondre rapidement parce que l'animal est inconfortable, l'animal peut être en état de souffrance. Le propriétaire est quand même extrêmement inquiet de savoir s'il va être obligé de prendre une décision qui est une décision atroce quand on aime son animal. On a vraiment senti un manque dans ces cas d'urgence et dans ces cas lourds, c'est-à-dire que on s'attaque à des cas qui sont des fractures, des injections de corps étrangers, des cas qui nécessitent quand même plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros à fournir. Mm-hmm. Et ça, en urgence, c'est pas toujours facile, bien sûr, surtout quand on l'a pas prévu, quand on l'a pas anticipé. Donc, on avait l'impression qu'il y avait un espèce de manque sur ce créneau-là.
Un trou dans la raquette, comme on dit.
Voilà, et on s'est dit, finalement, pourquoi pas apporter une solution interne aux cliniques vétérinaires pour aider justement ces propriétaires qui se retrouvent vraiment face à l'accident de vie.
Alors justement, Guillaume, expliquez-nous comment ça fonctionne concrètement.
Donc concrètement, comme Céline l'a expliqué, on est face à des situations d'urgence pour lesquelles le temps compte et est important. Et l'objectif pour nous, c'était de proposer une solution qui permette d'optimiser la gestion de ces cas-là et de faire gagner du temps à l'animal et à tout le monde. Donc on a développé une plateforme digitale. Les structures vétérinaires adhérentes auront accès à cette plateforme, pourront remplir un pré-dossier en ligne en quelques clics. La plateforme est en test actuellement, ça prend moins de 2 minutes pour remplir un dossier. Dossier qui sera ensuite complété et validé par le propriétaire avec notamment des informations sur ses revenus parce qu'on n'aura pas la possibilité d'aider tout le monde.
Puis c'est pas l'objectif. L'idée, c'est d'aider vraiment ceux qui en ont besoin.
Tout à fait. Et l'objectif pour la gestion et le choix des dossiers, c'est d'avoir une réponse extrêmement rapide. On garantit une réponse en 24-48 heures ouvrées maximum. Et dans la grande majorité des cas, une fois le dossier complet, ça prendra, je pense que dans la journée ou dans les heures qui suivent la réception du dossier, on pourra donner une réponse. On a vraiment optimisé le process pour que ça soit le plus rapide possible, parce que ces animaux-là ont besoin de soins rapidement et on peut pas les laisser attendre.
Et c'est là justement toute la force de votre projet, de cette plateforme vétéricaire, c'est d'être capable d'apporter une réponse quasi immédiate à la souffrance d'un animal, aux difficultés rencontrées par son propriétaire qui se trouve démuni, tiraillé entre le fait de voir son animal souffrir et le fait d'être dans l'incapacité financière de l'aider, et le vétérinaire aussi qui n'a jamais plaisir, bien sûr, à être confronté à cette situation.
Pour les équipes vétérinaires, que ce soit le vétérinaire ou ses assistantes, c'est la pire situation possible. C'est vraiment atroce, ça va à l'encontre de notre vocation de soins. Si on a voulu être vétérinaire, c'est souvent qu'on rêvait de ce métier-là depuis qu'on est tout petit. Et pour les familles en face, il faut apporter une solution la plus rapide possible. En temps réel, on va avoir du mal parce qu'il y a une partie de la gestion du dossier qui n'est pas notre fait. Parce que ça demandera quand même aux propriétaires de recueillir certains justificatifs, notamment la dernière feuille d'imposition.
sur le revenu, mais c'est vraiment par rapport aux situations, aux systèmes qui existent à l'heure actuelle. Notre objectif, c'est d'apporter de la rapidité dans la gestion de ces cas-là.
Et alors, comment vous-même, par le biais de cette association, vous allez financer la prise en charge des soins? Parce que les soins, ça coûte. Et d'ailleurs, j'imagine que certains auditeurs qui nous écoutent se disent, bah, si les gens ne peuvent pas payer, le vétérinaire doit faire les soins quand même. C'est pas si simple, en réalité.
Et non, c'est pas si simple. La profession vétérinaire fait déjà énormément d'efforts au quotidien sur la facturation. Malheureusement, on est face à des entreprises, on a des salariés à payer, on a des charges, donc on peut pas travailler gratuitement. On n'a pas non plus de sécurité sociale qui permette de prendre en charge ça à un niveau étatique. Donc on a besoin de fonds dans ces cas-là. Dans le cadre de Vétéricare, la provenance des fonds vient de l'adhésion des structures vétérinaires, les structures qui adhèrent à Vétéricare et qui rentrent dans ce projet solidaire adhèrent en payant une cotisation, et puis par le don des entreprises et également des particuliers.
Donc vous allez, j'imagine, lancer aussi un appel à un certain nombre d'entreprises pour venir, pour être partenaire en fait de ce projet solidaire, pour vous permettre d'avoir une trésorerie qui soit suffisamment forte pour assumer les cas qui vont se présenter à vous.
Tout à fait, parce qu'effectivement, on a besoin d'une trésorerie qui permettra de financer le maximum de dossiers de soins, parce que pour nous, bien évidemment, il y a une limite qui sont les fonds mobilisables par l'association, et plus on aura de fonds, effectivement, plus on pourra financer de dossiers et plus on pourra sauver d'animaux. Il y a vraiment une logique implacable à tout ça. Donc effectivement, on est déjà depuis plusieurs mois en train de contacter des entreprises du monde vétérinaire, des entreprises hors du monde vétérinaire, mais qui sont sensibles bien sûr à cette cause animale. Beaucoup de gens qui ont des animaux, qui comprennent cette détresse qu'on peut avoir dans ces situations-là. Mais aussi de chacun d'entre nous, de chaque personne qui est sensible aussi et qui peut nous aider en faisant un don, en participant vraiment à ce projet-là, parce que quand on a son animal et qu'on sait que cet animal est un membre de la famille, c'est une décision qui ne peut être prise sur des critères
bien
financiers.
Sûr.
Et nous, on est là pour ça. On est pour éviter ça.
Merci à vous deux, Céline et Guillaume, pour la présentation de ce magnifique projet solidaire. Et appel lancé ce matin sur Sud Radio. Si vous êtes une entreprise ou un particulier qui souhaitait les aider, vous pourrez bien sûr retrouver les coordonnées de Céline et de Guillaume sur la plateforme qui va bientôt être en ligne, Vétéricare. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite bien sûr un excellent week-end à l'écoute de Sud Radio, comme d'habitude.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.